BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Laurent Saint-Martin, merci encore une fois d'être avec nous. Donc député de La République En Marche du Val-de-Marne et donc dorénavant rapporteur général. Enfin maintenant, ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois.
Ça fait depuis le 15 janvier.
Voilà, exactement, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Donc présentation, c'est d'ailleurs en Conseil des ministres, du projet de loi 3e, projet de loi de finances rectificative, en attendant le 4e du reste. On peut dire que la facture du sauvetage économique de cette crise, en tous les cas, ne cesse de s'envoler. On est déjà à 134 milliards d'euros. La question, c'est finalement, à peine voté, il faudra déjà penser à l'autre pour ce projet de loi de finances rectificative.
Nous respectons la cadence que nous avions proposée en début de crise, c'est-à-dire que nous faisons des projets de loi de finances rectificatives au fur et à mesure de ce que nous comprenons de la crise sanitaire. Il faut rappeler quand même que c'est une crise sanitaire qui dicte l'évolution de la crise économique et donc l'adaptation de la puissance publique, du gouvernement, du Parlement, c'est de trouver les meilleures solutions législatives, budgétaires, fiscales, face à une crise économique que nous ne pouvons comprendre qu'au gré des semaines. C'est normal, cette crise-là, elle est exogène, elle frappe beaucoup de pays et donc il nous faut les réponses les plus adaptées en veillant, malgré les sommes astronomiques dont vous parlez, en veillant à la bonne utilisation de l'argent public. Donc il vaut mieux fonctionner par étapes que faire un grand projet de loi de finances rectificative et ne plus rien faire jusqu'au projet de loi de finances de 2021.
Oui, en plus on voit bien que là les choses se jouent, donc on voit les ravages de cette crise sur le plan économique. C'est sûr que même nous on brasse les milliards, on ne sait plus très bien même où on en est. À chaque fois il y a un milliard de plus parce que dans ce PLFR il manque le plan de relance sur l'automobile, il manque le plan de relance sur le commerce, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore prises en compte. Donc la facture, elle est déjà aggravée aujourd'hui, non ? Vous êtes d'accord avec moi là-dessus ? Oui.
De toute façon, la facture est effectivement salée, si vous passez l'expression. Mais on a fait un choix très clair. On a fait le choix de l'endettement plutôt que celui des impôts et surtout plutôt que celui des faillites. On a assumé que ça coûterait beaucoup d'argent à la collectivité, mais que la priorité, c'était de laisser nos entreprises debout. Quand vous traversez une tempête, vous avez deux options. Soit vous laissez tomber les plus faibles en espérant qu'ils pourront se reconstruire et se relever d'eux-mêmes sur des ruines, soit vous faites tout que vous pouvez pour essayer de les maintenir debout, en vie, et surtout, derrière, à la clé, qu'est-ce qui compte, ce sont les emplois. Comment est-ce que vous faites pour limiter au maximum la casse sociale ? Ben, vous maintenez, par des soutiens à la trésorerie, les secteurs les plus touchés. Autant les deux premiers projets de loi de finances rectificatives ont arrosé large, c'est-à-dire que toutes les entreprises, par le fonds de solidarité, par l'activité partielle, par les PGE, étaient aidées, quel que soit leur secteur d'activité. Autant là, nous prolongeons en ciblant davantage les secteurs les plus touchés, vous l'avez dit, l'automobile, l'aéronautique, la presse, la tech également, le tourisme évidemment, bref, tous les secteurs qui ont été touchés probablement plus que les autres à cause du confinement.
Et puis c'est pas fini parce qu'on attend un plan sur le BTP, il va arriver le plan sur le BTP ?
Oui, là aussi, tous les secteurs vont devoir avoir un accompagnement bien spécifique.
Non, mais on se pose la question, savoir si justement, si c'est dans le cadre d'un amendement dans le PLFFR ou si il y aura un plan spécifique.
Vous savez, les acteurs économiques concernés se fichent pas mal de savoir si c'est dans le véhicule législatif PLFR ou si c'est la semaine suivante ou si c'est annoncé pour un prochain projet de loi de finances. Ce qu'ils veulent, c'est un accompagnement de l'État.
Oui, mais c'est une précision.
Il y a des secteurs d'activité dont, effectivement, les plans ont été annoncés en amont, donc ils peuvent rentrer dans ce projet de loi de finances rectificative. Il y aura d'autres annonces après. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ce plan de finances rectificative. Il y en aura d'autres, effectivement. Et puis surtout, il y aura un PLF à l'automne, comme chaque année, et qui sera aussi l'occasion d'accueillir des nouvelles mesures. Donc, ce qui compte, c'est d'être là au bon moment pour les secteurs concernés. Et puis, vous savez, un projet de loi de finances rectificative, c'est d'abord des solutions budgétaires. Il n'y a pas que le budget dans la vie. Si on prend par exemple le BTP dont vous parlez, il y a aussi des sujets réglementaires et des sujets de simplification administrative, bien souvent, qui sont la clé de la reprise. Et ça ne passe pas forcément par un budget rectificatif.
Laurent Saint-Martin, là, on va rappeler que la prévision de croissance dans ce PLFR, c'est moins 11% de croissance, si on peut dire, enfin de décroissance, moins 11,4% de déficit, dette publique, 121%. Tiens, vous pensez que la dette, in fine, elle va monter jusqu'à où ? Vous avez une idée ou pas ? On va atteindre, je ne sais pas, les 150% fin 2020 ?
Non, je ne crois pas que nous allons atteindre les 150%.
C'est la provocation.
Oui, mais ceci dit, vous posez une très bonne question. C'est l'endettement jusqu'où ? Nous avons fait le choix de l'endettement parce qu'il n'y en avait pas beaucoup d'autres, à vrai dire, sur des montants comme ceci. Il faut quand même bien réaliser, pour ceux qui nous regardent, que 20 points de PIB d'endettement en quelques semaines, c'est absolument vertigineux et considérable. Il se trouve, et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer, que la France a ce qui s'appelle une bonne signature sur les marchés. Nous pouvons surtout bien nous refinancer. Les taux sont très bas et surtout, il y a une demande des investisseurs pour de la dette française.
Le programme d'émission de dette, c'est impressionnant. Hein.
C'est très impressionnant, oui. C'est tout à fait demandé. Donc, il aurait été assez coupable et assez peu adéquat de s'empêcher de s'endetter. Aujourd'hui, notre dette se refinance très bien. Notre dette d'État, comme notre dette sociale d'ailleurs. Hein. Je dis au passage, nous avons plusieurs endettements parce que nous avons plusieurs budgets. Ouais. Aujourd'hui, nous devons fonctionner en deux temps, c'est-à-dire ne pas hésiter à s'endetter aujourd'hui pour sauver nos emplois, notre économie et mettre une meilleure capacité de rebond pour demain. Mais en même temps, attention, tout de suite expliquer que cette dette-là va rentrer dans notre bilan et qu'il va falloir la rembourser. Moi, je n'accepte pas la musique qui dit que c'est de la dette qu'on pourra mettre au tapis.
Ah, bah, il y en a beaucoup, annulée. Même chez vous, même au sein de la République en Marche, qui disent que la dette, bon.
Non, allez, ça n'existe pas. Oui. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle se refinance bien, que le rôle actif de la Banque Centrale Européenne qui rachète des titres de dette sur le marché secondaire aide beaucoup, effectivement, à avoir des capacités de financement adéquates. Tout ça est très juste, mais cette dette, c'est une véritable dette. Elle n'est pas factice. Donc nous devrons la rembourser. Et pour cela, ça veut dire que quand la crise sera derrière nous, que les entreprises auront redémarré, que les emplois seront bien recréés, il faudra la stabiliser. Et puis commencer à la refaire diminuer, comme nous l'avons initié depuis 3 ans en arrivant au début de ce mandat.
Je vais vous interroger dans un instant, savoir justement pour parler d'impôts, parce que là, quand même, le manque à gagner pour l'État, c'est à peu près de 70 milliards, hein, parce que les recettes fiscales, ça ne rentre pas, donc la TVA. Juste un point, et c'est peut-être du reste un des thèmes de l'intervention du Premier ministre, du Président de la République dimanche soir, c'est de dire qu'il faut absolument se remettre à travailler. C'est-à-dire, il y a une crise économique, sanitaire, mais crise sanitaire et crise sociale. Maintenant, il faut vraiment tout faire pour essayer de remonter la pente sur le plan de l'activité.
Absolument.
Est-ce que finalement, moins 11%, c'est pas le tableau le plus noir ?
C'est le tableau le plus noir, encore une fois, à la lumière de ce que nous connaissons. Ouais. Il faut quand même être prudent. Nous avons toujours dit que l'activité devait reprendre en fonction de ce qui était possible sanitairement. Les nouvelles sont bonnes. Mais attention, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle crise sanitaire. Nous ne le savons pas, nul ne peut le dire. Donc nous devons faire reprendre l'activité à la fois le plus rapidement possible, mais tout en respectant les conditions sanitaires qui sont toujours présentes pour un certain nombre de secteurs d'activité. C'est pour ça que ce projet de loi de finances rectificative continue à soutenir des secteurs d'activité qui, eux, sont encore freinés, encore contraints par une reprise parfaite. En revanche, tous les secteurs qui peuvent le faire doivent se remettre maintenant au travail de la façon la plus dynamique possible. Pourquoi ? Parce que au mieux, la croissance reviendra forte et rapide. Cette fameuse courbe en V que nous espérons la plus aiguë possible. Même
est-ce que le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale croit en la courbe en V ?
Oui, mais vous savez, un V, il y a deux manières de le voir.
Soit ça s'appelle un U, sinon.
Le U, c'est la base de la lettre qui l'a fait changer. En revanche, un V, vous pouvez l'avoir plus ou moins avec un angle aigu.
Sérieusement,
je pense que la reprise sera longue, mais qu'elle sera assez importante. C'est-à-dire que nous aurons bien des secteurs qui vont pouvoir redémarrer vite et fort. En revanche, il ne faut pas s'attendre à une résorption de notre récession, de notre endettement, en quelques mois. Ça prendra des années. Ça, il faut en avoir conscience. Le choc social et la hausse du chômage va nous impacter pour longtemps. Ça, ce sont des réalités que nous avons déjà anticipées. En revanche, le message qu'il faut faire passer, vous savez, c'est quoi l'économie ? Vous le savez très bien ici à BFM Business. C'est de la confiance. Donc le message qu'il faut faire passer tout de suite, là, le 11 juin, c'est redémarrer vite l'activité pour justement générer cette valeur ajoutée qui elle-même va créer de l'investissement et de l'emploi.
Vous avez la déclaration d'Emmanuel Macron avec Angela Merkel qui dit attention, en septembre, on pourra peut-être avoir un retour de la pandémie. Si vous voulez, c'est pas très encourageant.
Non, c'est ce que je vous disais.
Un peu de discours.
Nous devons. Non, c'est pas de discours. Ça s'appelle le pragmatisme. Nous devons redémarrer vite et fort tout en augmentant le moins possible les chances de retour de la pandémie. Donc, nous devons rester vigilants par rapport à ce que nous connaissons de la crise. Mais là, les indicateurs sont bons pour nombre de secteurs qui doivent pouvoir reprendre le travail dans les conditions respectables.
Laurent Saint-Martin, est-ce qu'il faut des mesures, par exemple, allègement de charges sociales de nouveau pour les entreprises ? Est-ce qu'il faut une baisse de la TVA pour certains secteurs ?
D'abord, rappeler que nous avons fait une baisse des prélèvements obligatoires à la fois sur les entreprises et sur les ménages de façon totalement inédite pendant 3 ans. Ça, cette politique de l'offre, cette politique de la compétitivité, elle a déjà porté ses fruits. C'est ça qui nous a permis de créer 500 000 emplois dans notre pays.
Mais là, maintenant, c'est moins 500 000. Donc voilà.
Oui, vous avez raison. Sauf que la politique que nous avons menée, elle ne s'est pas annulée. Les entreprises sont plus dynamiques, sont plus agiles, ont plus d'oxygène pour redémarrer justement grâce à cette politique sociale. Est-ce qu'il faut baisser la fiscalité des entreprises ? Oui, je le crois, sur un certain nombre d'impôts, notamment les impôts de production qui qui pénalise mal les entreprises, trop dans le compte de résultats. Je préfère une fiscalité sur les bénéfices qu'une fiscalité sur la production. Donc oui, il y a encore des choses à faire dans ce sens-là.
Là, rapidement, mais globalement, rapidement, sur les finances 2021, vous pensez que ça sera dedans ?
Je crois que les impôts de production sont un chantier que nous devons apporter dès le projet de loi de finances 2021, okay. Effectivement.
C'est clair.
Mais attention, nous ne pouvons pas aller trop loin non plus dans la baisse de la fiscalité. L'État a aussi une responsabilité de rentrée fiscale pour ses services publics, effectivement, parce que aujourd'hui, le déficit qui est annoncé à plus de 11 points, les marchés nous regardent et nous ne pouvons pas non plus le creuser éternellement et dans des dimensions trop importantes, sinon ces mêmes créanciers ne nous prêteraient plus. Donc c'est un équilibre à trouver.
Baisse de la TVA, comme dans le cadre du plan social allemand. Alors on n'est pas du tout dans la même situation, mais en même temps, est-ce que c'est une interrogation ? Certains suggèrent justement cette baisse de la TVA pour la restauration, par exemple. Mais il y a
nous avons fait des choix différents et le choix sur la TVA, c'est un choix à faire initialement ou pas. Et nous avons fait un autre choix qui est celui de la subvention et du chômage partiel. Et je ne le regrette pas, je trouve que c'était le meilleur. Vous savez, la TVA, c'est un impôt un peu particulier, c'est celui qui va avec l'activité. Ouais. C'est celui sur la valeur ajoutée. Donc si il y a de l'activité, c'est normal qu'il y ait de la TVA. Là, il n'y avait pas d'activité, donc il n'y a pas de raison que ce soit sur la TVA. On ne va pas le faire aujourd'hui. La baisse de la TVA, ça n'aurait aucun sens parce qu'on serait obligé de la généraliser. Vous savez, je préfère continuer à aider sectoriellement ceux qui en ont le plus besoin plutôt que de faire des baisses de TVA qui coûtent très cher à la collectivité, qui coûtent très cher aux comptes publics, qui ne sont pas forcément les plus efficaces.
Oui, absolument, ça c'est sûr, puis en plus très impopulaire. Toute dernière question, est-ce qu'il faut toucher la fiscalité et fiscalité des plus hauts revenus ? C'est le grand débat. Alors c'est un peu un totem que brandit ici, mais
fiscalité...
sur le fond, est-ce que vous pensez qu'il faut y toucher ? Réponse courte et précise.
La fiscalité, c'est une question de stabilité, de trajectoire. Nous n'allons pas faire l'inverse de ce que nous avons fait depuis 3 ans en envoyant des signaux contradictoires. Nous avons ramené des capitaux dans notre pays, nous avons ramené de l'investissement. En revanche, il y a toujours mieux à faire en termes de redistribution et en termes de justice fiscale dans notre pays.
Merci beaucoup, bon, moi ça le mérite d'être clair. Et
merci
c'est
vous.
Efficace. Laurent Saint-Martin, donc rapporteur du budget de l'Assemblée nationale, député de la REM du Val-de-Marne. Merci beaucoup. Il n'y a même pas le temps de poser des questions politiques, ça sera une autre fois, et heureusement. Vous êtes dans un instant, on viendra sur les plans sectoriels aussi, il y a un coût, mais est-ce que c'est utile ? C'est l'un des meilleures économies sur le plan de l'industrie. Eli Cohen est notre invité dans l'orage.
BFM Business, le club de l'heure H.
Le club de l'orage avec Eli Cohen. Eli Cohen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Économiste, directeur de recherche au CNRS et surtout, vous êtes un des meilleurs spécialistes de l'industrie française. Alors là, on a sur la table deux plans significatifs. Un de l'automobile, 8 milliards. Un, l'aéronautique avec un affichage à 15 milliards, mais si on retire Air France, ça fait aussi grosso modo 8 milliards. Est-ce que ces plans sectoriels vont servir à quelque chose, Eli Cohen ?
Ben, ils ont au moins le mérite de s'attaquer à un problème qui est un problème très ancien et qui n'avait pas trouvé de solution jusqu'à présent. Ce problème très ancien, c'est pourquoi, par exemple, dans le domaine de l'automobile, on a assisté au cours des 20 dernières années à cette stratégie de délocalisation massive de la production du territoire national, dans le cas de Renault par exemple, au profit de la Slovénie, de la Turquie, du Maroc. L'argument qui a longtemps été avancé par Renault, c'est qu'il n'était pas possible de fabriquer sur le territoire national des petites citadines. Le problème, c'est que Toyota administre la preuve du contraire depuis 10 ans avec la production de la Yaris, qui non seulement est produite dans des conditions suffisamment rentables pour que Toyota ait étendu son usine, mais en plus, cette usine est devenue une usine massivement exportatrice. Elle exporte en Italie, elle exporte en Europe, elle exporte même aux États-Unis, et apparemment, elle satisfait toutes les conditions propres au territoire national. Donc, il y a une vraie question. Et donc, le gouvernement, à l'occasion du plan sectoriel automobile, dit, on veut bien vous aider, mais on veut également une relocalisation de ce qui concerne la filière électrique que nous allons par ailleurs fortement subventionner pour inciter les Français à acheter des véhicules électriques. Et de plus, comme nous investissons massivement dans la filière batterie et que le bloc motopropulseur représente 40% de la valeur d'un véhicule, on ne veut pas que ce pour quoi nous investissons ne serve à rien. Et donc, nous introduisons une clause de localisation. Alors, à partir de là, à mon avis, le débat peut commencer. C'est-à-dire, peut-être que Renault ne localise pas sur le territoire national pour d'autres raisons que le coût du travail. Après tout, j'ai regardé les chiffres, le coût du travail pour l'assemblage, pour ces petits véhicules, c'est à peu près 10% du coût. Même si en Slovénie, c'est 35% moins cher, ça ne fait une économie que de 3%. Donc, est-ce bien ça la raison ? Donc, je crois que ça doit être l'occasion d'un débat stratégique sur les chaînes de valeur, sur la localisation de certains maillons de la chaîne de valeur et sur la question de l'attractivité du territoire national. Pourquoi, aux yeux de Renault, le territoire national est-il si peu attractif ? Est-ce que c'est uniquement des raisons de coût du travail ?
Est-ce que vous avez une réponse à ça, Élie Cohen ? Parce qu'on a l'impression quand même que vous avez une idée.
Alors, mon intuition, c'est que le coût du travail est un des éléments et pas le seul. À côté du coût du travail, il y a, je dirais, le coût fiscal. Nous avons toute cette fiscalité de production qui est une vraie plaie française, qui n'existe même pas en Allemagne.
Il y a un différentiel de centaines de milliards.
Voilà, exactement. Et puis, il y a un troisième élément auquel je me suis intéressé dans le cas de la pharmacie. Pourquoi notre industrie des principes actifs est partie ? Et là, c'est ce que j'appellerais le coût réglementaire. C'est-à-dire, en gros, la production de principes actifs pharmaceutiques, c'est très polluant. C'est de la chimie très polluante. Et nous avons une régulation de lutte contre la pollution, c'est quasiment des établissements de type Céveso. Donc, tous ces établissements sont partis vers la Chine ou l'Inde, qui sont beaucoup moins regardants. Alors, de deux choses l'une, ou bien on peut trouver des moyens de rapatrier ces productions en veillant à ce qu'elles soient plus propres ou pas, ou dans ce cas, si on n'est pas capable, alors ça pose totalement différemment la question des principes actifs pharmaceutiques. Ça veut dire que si nous considérons qu'il est vraiment nécessaire de localiser ça sur le territoire, ça doit être sur le territoire européen et ça doit être par des espèces de dérogations au nom d'une sécurité sanitaire considérée comme aussi importante que la sécurité écologique.
Oui, mais c'est un peu difficile de dire, tiens, nous, on n'en veut pas en France, mais on va mettre ça au fin fond de la Slovaquie parce que c'est... Voilà.
En tout cas, vous voyez, l'intérêt, c'est que ça soulève des questions. Oui. On raisonne mécaniquement en termes de coûts, le coût du travail en particulier. Ben non, le coût du travail n'est pas toujours l'élément décisif en matière de localisation
industrielle. Deux choses par rapport à ça, et vous allez me dire comment faire. D'abord, Louis Gallois, ici, il a lancé un peu ici même, donc il est président du conseil de surveillance de PSA, mais bon, c'est un grand industriel, il a lancé un peu le débat sur la relocalisation en disant, mais attention, si on relocalise, ça va coûter plus cher. Mmh. Donc est-ce que les Français ont suffisamment de pouvoir d'achat pour acheter des voitures plus chères alors qu'elles sont déjà assez chères? Premier point. Ensuite, je recevais Jean-Dominique Senard, le patron de Renault, qui est venu expliquer un peu son plan. Il nous disait, là, pour l'instant, moi, j'ai des usines qui tournent à, allez, on va faire un package autour de entre 40 et 50%. Donc, complètement en sous-capacité. Donc, on ne produit plus de voitures en France. Donc, lui, il est face à cette situation. Qu'est-ce que vous faites, Élie Cohen, si vous êtes à la tête de Renault et à la tête de...
On avance dans le débat.
Oui, c'est pour ça.
Le premier argument, donc, c'est l'argument du coût. Je viens d'y répondre. La Yaris, je suis désolé, elle est produite dans des conditions économiques. Et je vous ai dit, j'ai vérifié les coûts. Le coût de l'assemblage, c'est selon les modèles, 8 à 15%. Vous voyez, j'ouvre ma feuille. 8 à 15%, ça ne justifie pas la délocalisation massive. Je dirais de tout l'écosystème de production automobile de Renault, puisque on n'a pas simplement délocalisé l'assemblage, mais on a demandé aux sous-traitants d'aller également au Maroc, d'aller également en Slovénie. Donc c'est carrément des écosystèmes automobiles qu'on a exportés. J'ajoute qu'il y a une différence entre Renault et Peugeot. Peugeot a moins délocalisé que Renault. Donc pourquoi cette différence entre Renault et Peugeot ?
Peugeot a quand même beaucoup délocalisé en tout ce qui est Europe de l'Est. Renault aussi pour la Dacia.
Oui, mais au total, on pourrait voir les chiffres, au total, Peugeot a moins délocalisé sur les 20 dernières années que Renault. Renault a été vraiment très loin. Et puis en plus, si on passe la comparaison avec l'Allemagne, alors là, il n'y a plus de comparaison, l'Allemagne n'a pas délocalisé des écosystèmes. Au contraire, elle a tenu à maintenir l'assemblage, elle a tenu à articuler un système de production avec les pays d'Europe centrale et orientale, elle n'a pas délocalisé des systèmes entiers. Donc, je reviens à mon point, je considère qu'on peut considérer raisonnablement la relocalisation des petites citadines électriques. D'ailleurs, ce n'est pas une relocalisation, ça sera une première localisation, puisqu'il s'agit d'une évolution. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la question du coût.
Après, il y a les impôts de production qui sont sur la table.
Il y a la question des impôts du pacte qu'on a évoqué tout à l'heure. Productif. Et puis, le deuxième élément, alors, c'est l'élément avancé par M. Senard. Alors là, c'est un point très important. Nous avons des usines Potemkin, c'est-à-dire c'est des usines qui ont l'air d'être des usines, mais M. Senard nous a appris qu'elles tournaient, pour certaines, à 20%.
20%, voilà. En fait, j'ai pensé au chiffre de 20%, mais je ne voulais pas...
Oui, non. Il a dit 20% et d'autres à 50%.
Incroyable.
Là, on voit bien que c'est le résultat d'une série de non-choix au cours des 20 dernières années. Au fond, pour ne pas provoquer d'abcès de fixation ni avec les syndicats, ni avec le gouvernement, on a préféré vider de leur substance des usines. On a délocalisé plutôt que de penser à un outil de production moderne. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et c'est ça la réponse à la question que vous posiez sur Yaris. Pourquoi Yaris est compétitif? Parce qu'ils ont robotisé, parce qu'ils ont automatisé, parce qu'ils ont impliqué la force de travail, parce qu'ils ont mobilisé...
Parce qu'il n'y a pas l'histoire sociale. Le passé,
oui. Les vieilles usines qu'on tient absolument à maintenir, etc.
Les syndicats quand même qui bloquent, enfin certains syndicats qui bloquent.
Voilà. Et donc, à mon avis, une position courageuse et intelligente de Renault aurait été de dire, écoutez, nous sommes prêts à investir sur le site France, nous allons faire les nouveaux véhicules ici, mais ça sera plus robotisé, plus automatisé, il y aura plus de formation, plus de qualifications mobilisées, mais nous négocions avec nos syndicats et avec l'État français un pacte social. Au lieu de ça, vous avez vu les guerres que le gouvernement a livrées à Carlos Ghosn pendant des années pour sa rémunération, cette espèce de climat suspect qui s'est installé avec le temps. Vous avez vu comment on a abandonné Carlos Ghosn quand il y a eu la crise avec le Japon. Il y a une relation fondamentalement malsaine. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de, je dirais, ce manque de courage, ce manque de débat et ce manque de compromis
social. Manque de
débat,
parce qu'il y a aussi un autre argument qui est de dire, mais ça, si on ne va pas refaire tout sur Renault, je voudrais qu'on revienne un instant sur les plans, il y a l'aéronautique aussi.
Oui.
C'est de dire que Carlos Ghosn voulait absolument devenir le numéro un mondial. Oui. Donc il y avait une espèce de fuite en avant sur la production de voitures n'importe où, à la limite, du moment que ça pouvait faire, faire du chiffre.
Oui, mais il a fait faire à Renault, un pas de géant. Il a quand même hissé Renault au tout premier niveau. Souvenez-vous de ce qu'on disait sur Renault au moment de l'affaire Vilvoorde. Ouais. Souvenez-vous des difficultés de Renault. Non, je pense qu'il a fait vraiment faire un pas de géant. Et simplement, il n'a pas réussi ni à passer le compromis social en France qui aurait permis la transformation, ni trouver un bon accord avec son actionnaire. Alors maintenant, vous évoquiez l'aéronautique. Là aussi, il y a un plan aéronautique qui est tout à fait intéressant. Et là, le gouvernement veut profiter de cette occasion pour stimuler la recherche et le développement pour des moteurs qui seraient moins polluants, moins consommateurs de kérosène. Et il veut donner un coup de boost massif pour l'avion électrique et l'avion à hydrogène. Là aussi, je crois que c'est de la bonne politique, c'est-à-dire mettre des moyens massifs dans la recherche pour essayer de conserver notre leadership, c'est une bonne méthode. À côté de ça, il faut vivre malgré tout. Donc il y a des commandes publiques qui sont passées pour des hélicoptères qui vont donc assurer un plan de charge pour la filiale hélicoptère. Et puis il y a cette idée à laquelle on n'avait pas pensé pour l'aéronautique, mais à laquelle on pensait pour l'automobile, c'est accélérer les renouvellements de flotte en aidant les entreprises à racheter de nouveaux avions pour déclasser les anciens. Donc je trouve que ça fait un plan assez complet et qui correspond bien à ce qu'intuitivement on aurait pensé soi-même comme mesure à prendre. C'est une bonne combinatoire de recherche, de développement, de commandes publiques et
Lee Cohen qui est satisfait de quelque chose, comme quoi il faut vraiment une crise du coronavirus. Alors, c'est très intéressant. Il y a un point quand même, je m'en souviendrai toujours, parce que c'était ici même qu'il avait piqué un coup de gueule. Philippe Petit-Collin, le patron de Safran, qui était du reste notre invité ici même, quand il a voulu, normalement, il doit construire une usine près de Lyon, près de Villeurbanne.
Oui.
Il a piqué un coup de gueule en disant, ce n'est pas possible de construire une usine en France. Alors, du coup, il y a une mobilisation générale, etc. Il y a tout l'aspect réglementaire, législatif, normatif.
C'est ce que je vous ai dit.
C'est là le principal frein.
Mais bien entendu, à mon avis, j'ai mis du temps à le comprendre, mais dans l'effondrement de l'industrie pharmaceutique française, il y a trois éléments majeurs. Le premier élément, c'est le changement de stratégie des industries pharmaceutiques. Le temps des big pharma avec des blockbusters, c'est fini. Et donc, ils investissent beaucoup plus dans la recherche avec des risques d'échec plus importants. Bien souvent, il faut qu'ils rachètent des start-up. Et bien souvent, ils développent un médicament pour une maladie rare. Et donc, ça n'a pas le marché aussi important que ça existait. Pour la production de produits actifs, la Chine a un avantage coût et un avantage réglementaire. Et dernier élément très important, la politique de la sécurité sociale a consisté à faire des pressions très fortes sur les prix.
Ouais.
Or, vous savez très bien que les prix sont un élément de la négociation, de la localisation. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à l'occasion de cette crise, c'est toutes les dimensions de l'industrie qu'il faut voir la dimension commande publique, la dimension
et
réglementaire.
Et qu'on se prend en pleine figure.
Voilà. Absolument. Et c'est tout ça que révèle cette crise actuelle. C'est pour ça que je pense qu'en mettant tous les problèmes les uns après les autres sur la table, le gouvernement essaye de ne pas avoir de réponse mécanique, simplement, par exemple, en stimulant la demande ou en apportant des concours de trésorerie. Il essaye d'aller regarder ce qui se passe de plus près
et de dans dénouer les chaînes, là voilà, où sont les
dans
blocages.
Les chaînes de valeur économique.
Très intéressant, Lycoen, on vous garderait bien. Mais là, l'orage continue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va suivre justement ce développement industriel pour voir s'il y a une réponse. C'est ça qui est intéressant, en tous les cas. Dans un instant, c'est Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, avec des perspectives assez noires, il faut bien le dire, qui sera notre invité. Notamment, on parlera beaucoup d'emploi. Tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Et on prend tout de suite la direction de l'OCDE où nous attend Laurence Boone, la chef économiste de l'Organisation internationale. Laurence Boone, merci beaucoup d'être avec nous. Vous ne pouvez pas être en studio parce que justement c'était une journée très importante pour vous. Vous avez publié hier des prévisions assez noires, il faut bien le dire. Et puis ce matin, vous avez publié aussi des prévisions plus centrées sur le G20 avec quand même des chiffres assez impressionnants, que ce soit sur la Chine, moins 9,8%, la France, moins 5,3%, ou encore l'Allemagne, moins 2,2%. On va parler aussi beaucoup du chômage. Mais d'abord, Laurence Boone, est-ce que finalement, vous n'êtes pas trop pessimiste malgré tout? On voit que vos chiffres sont assez noirs, il faut quand même le dire, Laurence Boone.
Comme vous savez, la situation est très, très, très incertaine. Et c'est vraiment la première fois, d'ailleurs, je pense, en tous les cas, sur le siècle précédent, qu'on a à faire face à tellement d'incertitudes. Et c'est parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec le virus. Il est en train de diminuer ici. Il part plus fort dans les pays d'Amérique latine, par exemple, ou en Inde. Et donc pour nous c'est extrêmement c'est toujours difficile des prévisions bien sûr, mais là c'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué que d'habitude. Donc du coup ce qu'on a fait, et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'OCDE, on a fait deux scénarios de prévision, et ça veut dire que l'équipe a travaillé sur deux, en fait on a fait deux prévisions. Une où le virus reste contenu et on reprend progressivement de l'activité, et je reviendrai sur ce que ça veut dire, et l'autre où on a un retour du virus. Et donc, dans les deux cas, effectivement, on espère comme ça encadrer le champ du possible. Mais dans chacun des cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tant que le virus est là, tous les secteurs ne pourront pas fonctionner de la même façon dont ils fonctionnaient avant. Certaines frontières vont rester fermées. La distanciation sociale va s'imposer dans le secteur des services. Ça ralentit le consommateurs, par exemple, qu'il peut y avoir dans un magasin ou chez un coiffeur ou dans nombre d'activités. Donc oui, on ne revient pas d'ici à fin 2021 au niveau qu'on l'on prévoyait quand on était en 2019, avant toute cette histoire de Covid.
Donc vous ne croyez pas du tout à une reprise en V. On en parlait tout à l'heure avec le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale à l'occasion justement de ce projet de loi de finances rectificative. Là, je parle pour la France, bien sûr. Vous ne croyez pas à une reprise d'activité plus forte? C'est une petite musique positive qu'on entend, mais qu'on n'entend pas tellement, qu'on ne voit pas en tous les cas. Dans vos chiffres, ça ne se traduit pas.
En fait, c'est une excellente question parce qu'il y a trois types de secteurs. Il y a des secteurs qui ont explosé avec le confinement. Et on peut penser par exemple à l'e-commerce, ça marche très très bien. Il y a des secteurs qui vont certainement continuer de croître, la santé, le soin aux personnes âgées ou aux personnes dépendantes ou malades. Il y a des secteurs qui vont marcher beaucoup moins bien ou différemment d'avant. Ça c'est tout ce qui est activité de tourisme, activité de festival, de récréative, les grands rassemblements sportifs, etc. Et puis, il y a des secteurs qui vont pouvoir reprendre de façon à peu près inchangée, comme le bâtiment. Et donc, on va avoir une reprise en V, effectivement, par exemple pour le bâtiment, jusqu'à ce qu'on retrouve le niveau qu'on avait avant, ou bien pour le e-commerce, qui va aller très, très vite. Mais vous voyez bien que dans les secteurs comme le tourisme, comme les services à la personne, où la distanciation physique est compliquée, ceux-là ne vont pas du tout repartir comme avant. Et donc, au total, on va avoir un V au début, puis après, on aura une progression qui va être plus lente. Et la clé, ça va être deux choses. La première, c'est la confiance des personnes. Est-ce qu'elles vont se sentir à même de... Est-ce qu'elles pensent qu'elles vont garder leur emploi, leur revenu, donc elles vont pouvoir reconsommer sans danger. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être notre capacité, en fait, à être dynamique et à passer des forces, des personnes, du capital, d'un secteur à l'autre pour accélérer la croissance.
En même temps, lorsqu'on regarde le secteur automobile, là, on a bien vu, il y en a certains qui disent mais il y a une reprise d'activité plus forte que prévu. Lorsqu'on regarde la Chine, on voit, ça y est, ceux qui travaillent avec la Chine nous disent, un témoignage ici même, ça a repris d'une manière spectaculaire. Donc, il peut peut-être avoir un scénario optimiste. J'essaye, en tous les cas, d'y croire.
Je pense que si la confiance revient, on peut avoir un scénario optimiste, vous avez raison, et vigilant. Après, si on regarde la Chine, comme vous le soulignez avant, la consommation de biens durables, par exemple, a mis très 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 longtemps à repartir. Ouais. Les personnes ont mis un petit moment avant de changer de comportement. Donc d'abord, elles faisaient toujours du shopping en ligne, beaucoup de courses en ligne, et ensuite beaucoup de biens non durables. Mais pour les biens durables, longs, et c'est vraiment la confiance qu'il va falloir travailler. Et là, je pense qu'il y a deux choses. Il faut, d'une part, une certaine transparence et un effet rassurant, en fait, mais dans la transparence de l'information sur ce qui se passe avec le virus, qu'on sache où on en est. Et puis, d'autre part, que et c'est très difficile pour les gouvernements, mais qu'ils arrivent à la fois rassurer sur le fait qu'ils vont être là et aider à la transition et ne pas la bloquer non plus en maintenant des systèmes qui étaient en fait des systèmes faits pour une période d'hibernation et pas de dynamique.
La question de vous parler de la confiance, elle est très très liée au niveau au taux de chômage. On a appris les chiffres de l'INSEE pour la France, là encore une fois, moins 500 000. Il y a des projections, vos projections sont très très noires sur le chômage. Vous êtes à combien? Moins 6%? Non, ça c'est. Vous êtes à combien? Moins de 12,3%, c'est ça, en taux de chômage?
Non, on est un peu en dessous de ça. Il y a deux choses. D'abord, les chiffres que vient de donner l'INSEE. Il faut aussi avoir en tête que dans chaque mois, normalement, il y a plein de personnes qui sortent de la recherche d'emploi parce qu'elles rentrent dans un emploi. Or là, quand on était en période d'hibernation, ça ne pouvait pas se faire. Mmh. Et ça, c'est des centaines de milliers de personnes. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, maintenant qu'on sort de l'hibernation, que certaines entreprises ne vont pas tenir ou bien que leur modèle a tellement changé avec la prise en compte. On va avoir une hausse du chômage. Et c'est pour ça que c'est important à la fois de protéger le revenu des plus vulnérables et d'aider le plus rapidement possible les gens qui vont perdre leur emploi à en retrouver un. Et ça, je pense que l'accompagnement, les services de placement doivent devenir beaucoup plus proches des gens et beaucoup plus spécifique et moins traité de grande masse, mais vraiment s'intéresser aux personnes et faire le lien avec les entreprises pour savoir où on recrute, comment on recrute et quel type de qualité.
On est quand même à un taux de chômage supérieur à 10% largement. C'est vous qui avez fait les prévisions. Moi, j'avais le chiffre de moins 12,3. Pour la France notamment, mais pour la zone euro, c'est de combien?
On est effectivement à un taux de chômage supérieur de 10% pour la France, mais moins pour la zone euro. Et à nouveau, ça dépend beaucoup des politiques économiques qu'on va mettre en place. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, avec ces scénarios, on a toujours un ensemble de recommandations politiques économiques. On ne fait pas ça pour faire peur, on fait ça pour dire voilà les pistes possibles. Voilà ce que d'autres pays ont fait et qui marche bien.
La question, peut-être la question finale, du moins momentanément, la reprise, elle pourra venir d'où? Elle va venir d'où à vos yeux? Parce qu'on voit que les États-Unis, c'est encore très très difficile. Là aussi, il y a non seulement une campagne présidentielle, mais le chômage est très élevé, même si un petit mieux. La reprise, elle va venir d'où, Laurence Boone?
Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on n'a pas de pays miracle comme on a eu, de pays miracle moteur comme on a eu pendant la crise financière où effectivement, à commencer par la Chine qui importait beaucoup de biens en capital du reste du monde et notamment de certains pays européens qui a aidé beaucoup à accélérer la reprise. Là, ce qu'il faut avoir en tête, on est quand même dans une crise mondiale. C'est rare les crises mondiales. La dernière fois, c'était les pays avancés, comme vous savez. Et après, avant, il y avait eu les pays émergents. Et donc, le ressort, il ne peut venir que de l'ensemble des pays, à la fois dans la maîtrise du virus je pense, dans la reprise des échanges commerciaux aussi, pour qu'on se tire les uns les autres à la hausse, justement. Et on a vu en période de crise que les restrictions, ça crée des problèmes de circulation de biens. Et puis, de politiques deviennent agiles et flexibles pour justement accélérer, aider la croissance. Exactement.
Merci beaucoup, Laurence Bounin, d'avoir été avec nous. Donc, chef économiste de l'OCDE, on a vu du reste que vos prévisions, elles ont un impact sur les marchés. Hein. En tous les cas, c'est vrai que c'est un côté un peu inquiétant, mais si on venait agile, on pourra peut-être reprendre plus vite. Merci beaucoup, Laurence Bounin, d'avoir été avec nous. Tout de suite, retour en studio avec Philippe Bloch, qu'on connaît bien. Ce sera mieux après, sauf si on est trop con. À tout de suite. Philippe Bloch, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
C'est un plaisir.
Ce sera mieux après, sauf si on est trop con, c'est le livre que vous publiez chez Ventana. Bon, on vous connaît bien sur BFM Business, faut-il le rappeler. Vous avez monté votre boîte, vous habitez entre les États-Unis et la France, vous avez écrit Service Compris. Ce livre, vous étiez venu me voir en disant « Arrêtons de me dire bon courage ». Et alors, vous revenez dans le livre en disant « Maintenant, on peut le dire ».
C'est autorisé provisoirement.
Alors, c'est autorisé très provisoirement. Oui. Alors, bon, vous avez écrit ce petit pamphlet, enfin ce livre de la pandémie. Pour qu'est-ce qui vous a pris, en fait? Vous avez été...
Il m'est arrivé, comme tout le monde, un truc unique dans l'histoire de l'humanité.
Tranquille. Impossible pour vous.
3 milliards, oui, exactement. 3 milliards d'individus confrontés à, non pas l'ennui, mais une autre façon de vivre pendant un temps indéterminé, ce qui constitue d'ailleurs une part du problème. C'est-à-dire qu'on avait une forme de manque de visibilité qui était pour certains très traumatisant. Il y avait deux options. J'adore les Netflix et les séries. C'était soit de les regarder toutes ou bien de réfléchir un peu, de continuer à réfléchir. Et puis, à mesure que le temps passait, je me suis aperçu que ça soulevait quand même d'immenses interrogations sur plein des aspects de nos vies à venir et d'avant, d'ailleurs, pour les remises en cause. Et je me suis mis à écrire. Et du coup, je me suis aperçu que la crainte que j'allais avoir, c'est que ce serait quand même trop dommage, compte tenu de tout ce que ça a démoli sur son passage, ce virus. On oublie trop vite, sans réfléchir à comment faire autrement.
Mais alors, justement, parce que vous parlez du monde d'après, certains, on en parle tous. Hein,
oui, je sais que c'est
une question récurrente.
C'est l'expression du moment.
Voilà, c'est l'expression du moment. La seule chose, c'est quoi le monde? Ou le monde d'avant ou le monde d'après? Vous voyez, vous venez de dire, ça a effacé beaucoup de choses. Ça a effacé quoi, cette période, ces 2 mois et demi de confinement?
Ça a fondamentalement permis à chacun de se poser des questions sur sa vie, sur la façon dont il consomme, la façon dont il abandonne ou pas sa liberté, dans quelle Europe il veut vivre, où est-ce qu'il veut travailler, comment travailler. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que ce sera comme avant, malgré ce qu'on commence déjà à entendre des gens qui disent non. On sait que de toute façon, on revient toujours en arrière. Moi, je ne peux pas penser qu'il n'y ait pas des plaques tectoniques là, qui sont en train de bouger sans même qu'on s'en aperçoive sur beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'il y aura un monde d'après, mais globalement, il va certainement accentuer des fractures qui étaient déjà existantes. Il va accélérer des choses sur, bien évidemment, la digitalisation, sur le travail, sur le management, sur l'Europe, sur la mondialisation. On a entendu tout ça pendant tout le confinement. C'est une espèce de recueil, finalement, de tous les sujets qui ont émergé pendant ces 2 mois. Véritablement, on était face à nous-mêmes, en fait.
Oui, alors, il y a un point, c'est même... Moi, je prends votre livre à l'envers. Vous finissez en disant, il y a beaucoup qui disent que c'était mieux avant.
En ce moment, c'est vrai. Ouais. Sur la période d'actuellement, là, je viens de traverser ce studio, c'est désert, c'est mort, c'est triste. Paris est encore un petit peu triste. Oui,
actuellement, protocole sanitaire oblige.
Fondamentalement, c'était mieux avant, mais simplement, c'est à nous de reconstruire ce monde et bien de le réinventer. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on observe que plus personne n'utilise le mot de reconstruction, d'ailleurs, parce qu'on n'a rien démoli globalement. C'est pas une vraie guerre, c'est une fausse guerre qui n'a pas détruit d'actifs.
Non, on est passé à autre chose.
Vous voulez, on est déjà passé à autre chose. Oui, mais c'est dommage. Parce qu'à l'évidence, j'entendais des prévisions catastrophiques de l'OCDE actuellement, etc. Ce qui nous attend est quand même absolument redoutable à la rentrée pour les entrepreneurs, pour les salariés, etc. Si on n'a pas cette capacité de réinvention, cette envie de réinvention, cette capacité à avoir de l'audace, moi ce qui m'a fasciné quand même dans cette histoire, c'est qu'on a quand même, on est un pays qui a accepté de perdre ses défenses immunitaires. Pas uniquement par rapport à la maladie, mais par rapport à la vie. Enfin, je commence le bouquin par le rapport à la mort. Enfin, c'est absolument dingue ce qui s'est passé quand on y réfléchit. Moi qui suis un entrepreneur, je sais que surprotéger affaiblit et qu'entreprendre aguerrit. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on nous a dit, les gars, rassurez-vous, on s'occupe de vous, restez chez vous tranquillou.
Et tout le monde a suivi.
De manière absolument dingue, sans qu'on nous l'ait demandé, ce qui est quand même une démocratie. Enfin, je suis pas du tout de ceux qui vont condamner ceux qui ont fait, parce que de toute façon, c'était un truc tellement impossible. Je trouve même extrêmement dangereux, pour être sincère, les menaces de procès, etc. Parce que si on commence à foutre la trouille aux dirigeants quand ils doivent prendre des décisions difficiles, ils nous confineront à vie à chaque grippe. Là-dessus, c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a dû faire ça? Comment on fera autrement la prochaine fois? Il y aura plein de prochaines fois, quelles qu'elles soient. Donc, l'envie, moi, c'est vraiment de dire, on a un job, mais phénoménal. Et quelque part, j'ai vraiment eu le sentiment rapidement en écrivant et en réfléchissant qu'on a tous, mais vraiment tous, notre pierre à apporter sur les choix que nous ferons. Ils sont d'abord personnels et finissent par être sociétaux, collectifs, économiques, et ils impactent la mondialisation, la proximité. C'est des enjeux géniaux.
Je disais que vous habitez entre New York et Paris.
Ouais, enfin, je suis plutôt à Paris, mais effectivement, Paris, j'ai une culture un peu américaine.
Non, mais si je dis ça, c'est parce qu'à New York, ils ont accepté le confinement. C'est assez bizarre de voir ce qui se passe, parce que là, ça a vraiment été le foyer, le cluster de l'épidémie aux États-Unis.
Oui.
C'est New York.
C'est étonnant. Dans un pays de liberté. Toujours, moi, j'étais en contact avec les gens dans l'immeuble. Ouais. Enfin, je veux dire, ils étaient complètement estomaqués de ce qui était en train de se passer. Mais ça lie à un truc, c'est que New York est à 80% démocrate, et avec un gouverneur qu'ils ont apprécié, et dans lequel ils avaient confiance. C'est là qu'on retrouve d'ailleurs le rapport à la confiance des dirigeants quand ils ont pris les décisions. On n'a pas arrêté de rappeler pendant tout ce confinement que les femmes ont mieux géré, les dirigeants de femmes ont mieux géré cette crise que certains autres pays. C'est aussi parce qu'il y avait un niveau de confiance, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Taïwan ou en Corée du Sud, etc. Et quelque part, là, il y avait un lien de confiance avec le gouverneur Cuomo, qui tous les jours leur parlait cash, disait aux gens qui ne faisaient rien que c'était pas normal, etc. Il les a pas infantilisés, je crois qu'il a plutôt bien pris le sujet. C'est pour ça que New York, compte tenu de la densité de population, a souffert, mais globalement, ils en sont plutôt pas mal tirés.
Alors si je prends un peu par rapport à votre livre, moi il y a un truc, et vous avez raison, parce que c'est un sujet d'étonnement pour moi, et vous le dites, c'est tout mérite réflexion, effectivement, par rapport à ce qui est tombé par terre, notamment l'écosystème des startups qui a complètement disparu.
Complètement.
Alors moi j'ai reçu Frédéric Mazzella, qui est le co-président de France Digital, le patron de BlaBlaCar, mais c'est vrai qu'ils essaient totalement disparu, alors que pourtant c'est là où il y a des innovations demain.
Ceux qui nous promettaient d'arrêter la mort et de la repousser.
Oui, c'est ça, non, enfin je sais pas. Mais il y a surtout l'intelligence artificielle. On n'arrête pas de vous dire que l'intelligence artificielle, les robots sont en train de prendre notre place. Alors là, on aurait bien voulu savoir où est-ce qu'elle est, l'intelligence artificielle.
Elle n'a pas été au rendez-vous. Et effectivement, et on s'aperçoit que... D'abord parce que d'abord, Internet et les startups nous ont surtout emmené des améliorations de confort aujourd'hui, beaucoup plus que fondamentalement structurées, révélatrices, et très très différentes. Mais surtout parce que l'intelligence artificielle, je fais d'ailleurs un chapitre là-dessus, parce que le chapitre sur Orwell, sur les libertés, sur quelle part de liberté on est prêt demain à affronter pour sauver nos vies, est vachement intéressant dans un pays, la France, qui a inventé la RGPD et qui est en train de flinguer l'intelligence artificielle. Parce que n'oublions pas que l'IA... Parce que l'IA, c'est de la data. Et que l'on refuse de partager nos data dans un pays comme la France qui a confiance en personne, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ?
On
fait
émerger...
On fait émerger des champions de l'IA qui sont chinois et américains, parce que nous, Français, alimentons...
Vous pensez que c'est la raison ? Enfin, c'est pas...
Une des raisons pour lesquelles, en fait, l'Europe a perdu la guerre de l'intelligence artificielle, c'est celle-là. Ouais. On a les meilleurs, simplement, ils travaillent pour les Chinois et puis les Américains, et nous, on garde nos data parce qu'on ne veut pas les
partager.
C'est
notre frilosité, pardon, par rapport aux data.
C'est notre manque de confiance. Ouais. On est un pays fondamentalement défiant. En tout point. Et on évoquait là juste avant la confiance, elle est là la clé de la relance ou pas.
Ça c'est sûr.
La clé de la relance ou pas. C'est que si en tant qu'entrepreneur on n'est pas capable d'abord de donner confiance à nos équipes qui pètent de trouilles là, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Est-ce que j'aurai encore un job? Moi j'ai deux trois copains qui me disent non, ça va pas très fort, ça y est, mon épouse est victime du Covid-19, à la maladie, non, le chômage. Ça commence à arriver. Donc on a vraiment en tant qu'entrepreneur, là je m'exprime au nom des entrepreneurs.
Oui, et puis vous, votre business il a disparu. Hein,
ah bah le mien, il n'y a plus de business. Terminé, objet de réinvention, etc. Mais voilà, tout bad, c'est la vie des entrepreneurs, mais c'est qui est excitant. On s'est déjà dit, je crois, Edwige, dans une autre émission sur un autre bouquin, parce qu'un jour on m'a dit, mais c'est quoi un entrepreneur? Et moi, avec notamment l'histoire de Columbus Café, qui pendant 10 ans a été une espèce d'épreuve absolument passionnante, de 10 années d'obstacles surmontés, moi j'ai vraiment très vite compris qu'un entrepreneur, c'est un type ou une femme qui importe des emmerdes et qui exporte de l'enthousiasme. Ben, je crois que la clé de la reprise, elle est là demain. C'est-à-dire qu'on a des tonnes d'emmerdes devant nous. Alors bien sûr, on va aller à la plage, etc. Ça va nous détendre un peu, mais... La rentrée, c'est sauvage, il faut quand même le dire, hein, ça va être vachement dur. Il faut tout réinventer. Et en fait, je pense qu'on va y arriver parce qu'on a plus d'énergie que les autres et qu'on est plus résilient.
Quand vous dites nous, c'est nous entrepreneurs, ou nous français?
Français, j'en parle pas parce que français m'inquiète. Parce que quand j'entends que 50% des Français disent non, c'est pas la peine de bosser plus alors qu'on a emprunté de l'argent imaginaire à nos enfants pendant les 45 ans à venir ou les 2 siècles à venir, j'ai un peu de mal à leur faire comprendre que c'est pas comme ça que ça va se passer et qu'effectivement, il faut rembourser. Moi, j'ai pris mon prix PGE, BPI, machin. D'ailleurs, je dis chapeau, c'est important de le rappeler aussi quand même. Chapeau aux banques. Chapeau à la façon dont le gouvernement a tenu la main des entrepreneurs pendant cette période. Je crois qu'on est quand même le pays où on a été le plus gâté là-dessus. Ça a été rapide, ça a été bien fait. Faut que je le rembourse moi maintenant ce prêt, sans revenu, parce qu'effectivement j'ai des activités.
Ça va être la grande question, hein, justement, parce que est-ce que on va pas les transformer en fonds propres? Et évidemment, l'État n'a rien à faire dans votre entreprise ou dans d'autres, hein, dans des milliers d'autres.
Mais il faut qu'on se retrousse les manches. Mais j'aimerais dire aussi un truc, c'est que. Je reviens toujours sur Columbus parce que c'est ma plus belle aventure d'entrepreneur. À un moment, on n'avait plus un rond, alors qu'on avait démarré avec trop d'argent.
On va raconter que vous avez participé à l'aventure.
J'ai créé Columbus Café, un rêve brisé, reconquis, aujourd'hui 250 points de vente. C'est qu'à un moment, il se passe un truc quand on n'a plus d'argent. Mais ça, je l'ai compris dans l'aventure. C'est quand on n'a plus d'argent, l'imagination reprend le pouvoir. Et on commence à penser autrement. Et c'est ça qui est en train de se passer. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. Moi, j'ai quand même vu des trucs de dingue. Je vois un truc qui n'est pas business, même si c'est une chaîne business. Le jour où j'ai vu un curé de campagne assis sur un tabouret à faire une confession en drive. Vous avez vu cette image? C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait plus possibilité de se confesser.
Ah, oui, oui, oui,
donc,
oui,
du
oui,
coup,
oui,
les curés se sont dit, on va inventer la confession en drive. Enfin, écoutez, c'est pas merveilleux que l'Église, après deux millénaires, réinvente la confession. Tout le monde a dû réinventer les trucs. Et je trouve que c'est terriblement excitant. Mais je pense qu'il y a quand même une petite tendance à la dépression française, que je dénonçais dans mes précédents bouquins. À l'évidence, il faut que l'on compense par un maximum d'énergie et par de la passion.
Donc, et ça va repartir où, quand, comment, les secteurs, qu'est-ce que vous voyez?
On les connaît, ça a été dit tout à l'heure. Tous les secteurs qui supposent.
Oui,
bien sûr. Et puis tous les secteurs qui supposent du contact physique sont totalement traumatisés, traumatisants pour longtemps. Il y a des secteurs, je suis très sensible à ce qu'a évoqué tout à l'heure sur le care et puis les personnes âgées, parce qu'il y a un chapitre sur justement sur profit versus people, parce que je crois que c'est une des grandes révolutions de cette histoire. On va de plus en plus s'intéresser aux gens et faire preuve de bienveillance, d'empathie. Il y a des métiers qui vont exploser, d'autres vont mettre très longtemps à se redresser, et puis il y a les indépendants, il y a des drames sur beaucoup, beaucoup de métiers.
L'égoïsme national, peut-être l'égoïsme qui était quand même un sport national.
Là, l'égoïsme
national. Non, mais vis-à-vis des vieux, des personnes plus
là,
âgées.
Là, je crois que ça va beaucoup changer.
Là, je pense que ça a changé.
Ça a changé. Moi, il se trouve que le chapitre le plus personnel, c'est la mort de mon père l'an dernier. Dans l'EHPAD où il était, ils ont assassiné mon père l'an dernier. Mmh. Vraiment assassiné. Mmh. Je le raconte dans le bouquin. Et ce qui a été vécu dans les EHPAD, du coup, m'a traumatisé. Et il se trouve que, je ne l'ai jamais dit, mais on se connaît tellement bien, et depuis longtemps en plus, Edwige et moi, de l'expansion de toutes ces années, je peux le dire ici, c'est qu'avant le confinement, j'avais un nouveau projet de création de boîte qui était sur ce sujet-là, sur le vieillissement de la population française et la dépendance, parce qu'on est face à un mur dans lequel la France est en train de foncer vitesse, qui suscite dans les familles des drames absolus.
Foncé, parce qu'on découvre quand même le nombre de Français dont les parents sont dans les EHPAD, alors qu'il y a quand même une réflexion à avoir justement sur l'accompagnement de la vieillesse.
Voilà, et quand je vous dis que, même à titre personnel, l'usage que j'ai envie de faire de mon temps dans les années qui viennent. Bah, j'y réfléchis pendant ces deux mois. Je me suis dit, est-ce que tu as envie de courir dans le monde entier pour des raisons parfois inutiles, ou est-ce que tu vas peut-être un peu te poser pour vivre différemment, donnant du temps différemment, être utile. Ça m'a beaucoup changé. Et je pense qu'il faut impérativement, c'est mon seul message finalement, n'oublions pas, continuons à réfléchir. D'ailleurs, la conclusion, c'est 450 questions finalement.
Absolument. Et puis il faut surtout se réinventer. Je pense que c'est le point vraiment très très important. Merci beaucoup Philippe Bloch, toujours un plaisir de vous avoir, parce qu'il y a toujours on en retire toujours quelque chose.
Merci,
de positif. Ça sera mieux après, sauf si on est trop con, vous l'avez compris. Merci Philippe d'avoir été ici dans le RH. C'est la fin de le RH. Demain, les best-of de le RH. On se retrouve dimanche, BFM Politique. Et puis lundi, avec de nombreux invités. Surtout, soyez au rendez-vous. Bonne journée.